Empreinte, une émission conçue présentée par Abdelkrim Tazaroud, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres, à la littérature, et nous recevons des écrivains qui, chaque vendredi, vous parlent de leurs ouvrages. Je reçois aujourd'hui Eddy Benazi, un auteur que je vous conseille. Il nous vient avec son dernier roman, Au-dessus d'Alger, seulement les étoiles. Le titre déjà nous fait rêver, nous fait aimer les étoiles. Ce livre nous fait voyager. Eddy Benazi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc, Eddy Benazi, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs de la chaîne 3?
Oui, alors je m'appelle Eddy Benazi, je suis écrivain. Au-dessus d'Alger, seulement les étoiles est mon deuxième roman. Mon premier, qui s'appelait Marée basse, est sorti en 2022. Voilà.
Ça parle de quoi, Marée?
Le premier, Marée basse, c'est en fait un peu dans la même trame, en fait. C'est l'histoire aussi d'un crime, lié à l'histoire de l'Algérie. En fait, je travaille, et puis qui se passe en 2004.
De quelle période?
Alors, justement, c'est une période différente que dans le deuxième. La période que je traite dans le premier, ce sont des événements historiques qui ont eu lieu au début des années 1830, quand les Français sont arrivés en Algérie. Le roman lui-même se passe entre 2014 et 2015. Mais l'origine du crime est liée à des événements historiques qui ont eu lieu au début des années 1830. Et pareil, il y a pas mal d'aventures, de voyages et ce lien permanent entre l'histoire, avec un grand H, et ce qu'on vit aujourd'hui vers l'Algérie contemporaine.
Très bien, très bien. Donc, vous avez beaucoup voyagé durant votre enfance. Je lis en quatrième de couverture. Vous êtes né en 1980, donc vous êtes jeune.
Merci.
Vous avez grandi en Algérie, puis à l'étranger.
Oui.
Entre autres destinations, Mauritanie, des études en France, a vécu à New York, Dublin, Singapour.
Et Londres.
Et Londres.
Ouais, absolument.
Et pour finir, Londres. Et là, vous êtes
revenu
de nouveau
à Alger.
Retour au Baïkraï.
Absolument.
Comment ça se passe,
très
le
bien.
Retour?
Très content d'être rentré à la maison.
Après un périple de...
Oula, ça, je vais pas dire, ça va pas me rajeunir, mais pas mal d'années, plusieurs décennies, mais vous savez, même Ulysse est rentré à la maison au final, donc c'est toute odyssée, à la fin de toute odyssée, vaut mieux, c'est toujours bon de rentrer à la maison, enfin c'est le but en fait. Hein,
ouais. Vous avez retrouvé Pénélope?
C'est une bonne question. Pas encore.
Allez. Alors, les Pénélopes qui sont encore non bagués. Il est là, il est disponible, il est prêt à vous emmener voyager à travers, pas des voyages, mais un voyage de noces, c'est sûr. Mais surtout à travers ces fictions, ces romans. Et là, vraiment, moi, avec Au-dessus d'Alger seulement, j'ai voyagé. Je ne me rappelle plus combien de destinations... il y a dans le livre, mais je peux parler déjà Londres, donc l'Angleterre, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Niger, le Nigeria, enfin, j'en oublie d'autres.
On voyage beaucoup, ouais.
Hein?
Mais là, on voyage beaucoup, mais le centre de tout à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est l'histoire d'Algérie qui est centrale en fait.
Qui est
un personnage quasiment à part entière. Et tout tourne autour de ça. C'est vrai que physiquement, on voyage, c'est vrai, mais tout tourne autour de notre histoire.
Alors, c'est vrai que quand j'ai cité les destinations, j'ai cité les pays que vous nous citez, vous nous emmenez dans l'univers de ces pays. Il y a l'histoire de ces pays.
Oui, hein, qui se mélange à l'autre. Ouais.
L'Ukraine, la Russie, l'ex-URSS, l'Angleterre, les États-Unis, mais aussi... L'Algérie donc de l'époque coloniale, l'Algérie d'avant la colonisation, donc sous l'époque turque, l'Algérie indépendante et surtout cette période qu'on garde tous en mémoire, du moins ceux de ma génération, la Mecque des révolutions. Là, vous en faites tout un.
C'est une époque.
Ça traverse tout votre livre.
Ouais, c'est donc les années 60-70, qui est une époque. qui a son importance dans le roman, sans trop spoiler, mais qui a une influence importante sur le personnage principal, qui est Jalal, qui a 48 ans au début des fesses en 2016, quand le roman commence. Et c'est une époque qui était très très riche. Et ce qui m'intéressait aussi, parce qu'il y a donc il y a un prologue qui se passe en 1785.
Alors là je vous arrête.
Ouais.
C'est un prologue un peu intrigant. Quoi.
Ouais, bah c'est le but. Ouais.
Alors un prologue intrigant, c'est quand même assez lointain.
Oui.
Par rapport à toute la trame, je me suis posé la question que se poserait n'importe quel lecteur. Comment va-t-il faire le lien? Est-ce qu'il va remonter le temps? Quel lien va-t-il faire avec
85.
Ouais. C'était l'époque où donc l'Algérie était bien installée, une force. C'était bon, ça s'appelait pas l'Algérie.
Enfin, c'est la régence d'Alger, mais c'est la régence. Ce qui est intéressant d'ailleurs, j'avais retrouvé des cartes ce qui était un peu cette époque-là. C'était les frontières est et ouest étaient quasiment similaires à les mêmes aujourd'hui.
Oui,
donc
absolument.
Le sud était un peu différent, mais enfin, on était assez oui, comme vous l'avez dit, bien installé.
Il y avait le consul donc de France et celui d'Angleterre.
Oui, en fait, il y a une scène dans le prologue, hein,
dans le prologue, oui.
Où le Dey Mohamed Ben Othman doit prendre une décision
importante.
Importante, et dans l'antichambre, en fait, il y a le consul de Grande-Bretagne et le consul de France qui attendent sa décision. Et il finit par la prendre. Alors, c'est pas quelle décision, parce que je ne le dis pas dans le prologue, mais cette décision qui aura des conséquences bien plus tard, ça sera une véritable bombe à retardement. Qui aura des conséquences plusieurs siècles après, quand le roman commence, c'est-à-dire en 2016. Et ce que je trouve intéressant, de manière générale, dans l'histoire, c'est que ça me fascine, et c'est une immense source d'inspiration pour moi dans mes romans, l'histoire algérienne en particulier, c'est, vous savez, c'est un peu l'effet papillon. Des choses qui semblent anodines, qui ont été des choses qui sont passées il y a plusieurs siècles, même plusieurs, parfois milliers d'années, qui sont anodines, et puis qui font boule de neige, et qui ont des effets immenses à notre époque.
Votre mérite est grand, surtout que ce n'est pas une époque très connue. On n'en parle pas beaucoup. Alors, je vous cite, dans l'antichambre, les consuls, dans l'antichambre donc du Bey, dans l'antichambre des consuls de Grande-Bretagne et de France, s'impatientaient. Ces deux pays représentaient les deux grandes puissances de l'époque, mais désormais, Alger était en position de force et après 2 ans de négociations acharnées, le Dey avait enfin pris sa décision. Voilà.
Ouais.
Et vous ne dites pas plus.
Non. On voit que sur son bureau, il y a 3 piles de lettres, en fait, 3 piles différentes.
De documents.
Ouais, de documents. Enfin, des lettres. La première pile, ce sont des lettres qu'il a échangées avec le premier ministre britannique de l'époque, William Pitt, pendant plus de 2 ans. Qui est une pile assez volumineuse, donc il y a eu pas mal d'échanges, on va dire. La deuxième qui est beaucoup moins volumineuse, mais ce sont des lettres qui ont été en tout cas échangées avec les autorités
britanniques et françaises
de l'époque. Alors on sait pas qui, je le dis pas qui, mais en tout cas qui ont été visées par Louis XVI, donc le régent de l'époque. Et puis une troisième qui sont écrites de sa main. Qui détiennent toutes le même message. Il a écrit à chaque fois le même message, qui sont des messages urgents, courts et urgents, et qui sont destinés à toutes les garnisons militaires du pays, et qui sont prêtes à partir une fois sa décision prise. Et bien sûr, je ne dis pas ce que c'est, ni ce qui se passe, et après on passe à 2016, où le roman commence, en fait.
Bien, c'est facile à dire, alors. Nous sommes Alger, raison d'Alger, le 15 mai, dans la précision, hein,
ouais.
15 mai 1785, et deux pages seulement. Après, Alger, le 9 janvier 2016.
Ouais.
C'est l'histoire commence. Là, c'est un voyage qui commence. C'est comme dans les films, c'est un prologue. Et puis, vous avez, comme dans les films, l'intrigue, vous avez l'élément déclencheur de toute cette fresque. C'est une fresque pour moi. C'est toute cette fresque, c'est un crime. Un crime odieux, crapuleux. Un crime, c'est... On est dans le thriller.
Oui, absolument.
On est dans le thriller et on est vraiment... qu'est-ce que je vais dire? On est transporté, transvasé, C'est incroyable l'exploit que vous réussissez avec...
C'est le but.
C'est l'élément déclencheur.
Ouais, il y a même...
Inattendu.
Absolument. Vous savez, ce que j'aspire à faire en tout cas, c'est prendre le lecteur et l'emmener sur un chemin complètement inattendu et pour qu'il se dise à chaque fois, mais où est-ce que ça va? Et j'adore quand des lecteurs me disent qu'ils sont en train de lire le roman et qu'ils me disent, mais qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça va? Je n'ai aucune idée de l'endroit où ça va aller.
Vous êtes un peu en littérature l'équivalent de Hitchcock au cinéma.
Ah bah écoutez, ça c'est un gros compliment, ça. Merci beaucoup.
Commence par un crime.
Oui.
C'est bien. Ouais, c'est à la limite. On en lit, si on lit un peu la presse, les crimes, c'est pas ça qui manque en Algérie comme partout ailleurs dans le monde.
Ouais.
Sauf que il y a un coup de fil anonyme qui atterrit chez le voisin et c'est une voix d'une femme qui dit au personnage central, principal, Jalal, venez me voir, j'ai quelque chose à vous dire. Venez à Benisnous, c'est pas à Tlemcen,
Benisnous, ouais.
C'est précis, c'est Benisnous.
Ouais.
Comment, Benisnous?
Ben écoutez, il y avait le nouvel an Yenayer à Benisnous qui est fêté d'une manière assez
c'est le meilleur.
Ouais, voilà. Et j'avais envie de montrer ça.
Voilà, c'est clair. C'est
ouais,
clair
j'avais envie de montrer. Oui, j'avais
on
envie
parle
de montrer.
De Lyon avec des peaux de mouton.
Voilà, fait du lion qui est multimillénaire cette fête et j'avais envie d'en parler. Et puis ça m'a arrangé dans mon histoire parce que le personnage que Jael va voir là-bas est basé dans l'ouest du pays. Donc ça tombait bien et donc j'avais envie de le montrer, absolument.
Et c'est bien fait parce que vous en parlez, ça aussi c'est peu dit. Moi j'ai eu la chance aussi de le vivre.
Ouais.
Et c'est vrai, c'est unique comme spectacle, c'est vraiment fabuleux, c'est bien préservé. Je rappelle que Benisnous, c'est une région de Tlemcen.
Oui, absolument. Oui,
qui a gardé donc les coutumes, qui a gardé le parler ouais. même de Kabyle.
Mais c'est ça qui me fascine, ce sont des traditions, des coutumes qui datent vraiment de plusieurs milliers d'années, qu'on a conservées, mais qui ont encore un impact sur qui on est. Et ça voyage et c'est quelque chose qui me fascine. Voilà, on a une histoire qui est très riche.
Voilà. Ce qui est riche, donc il y a l'intrigue, il y a le crime, crapuleux, il y a le coup de téléphone et notre écrivain Adi Benazi ne se contente pas déjà de nous dérouter avec ces éléments intrigants et il nous sort une description incroyable. Il va nous parler de ses parents. Il a décidé de nous parler de ses parents, d'une photo de ses parents.
Parents de Jalal,
hein,
ouais.
Hein?
Les parents de Jalal, du personnage, oui.
Le personnage de Jalal.
Oui.
Et il en parle, c'est pas pour nous clarifier les choses, mais pour aussi mettre son grain de sel, un peu d'intrigue. Je lis. Je scrutais ces deux photos qui semblaient ces fragments de mon cœur que la vie intraitable m'avait attaché. Mes parents étaient décédés alors que je n'avais que 20 ans. Plus récemment, un juge britannique à la robe fantasque et à la perruque de clown et au cœur en grève avait confié la garde de mes enfants à mon ex-épouse. Tous les jours, je me demandais pourquoi, tous les jours. C'est incroyable. Mais ça commence pas par une photo. Les parents, et vous introduisez ce tribunal qui vous a condamné à ne pas voir vos enfants. Ouais. On apprend que le personnage de Jalal est marié à Elena.
Et voilà. Ouais, une danseuse étoile russe qu'il avait rencontrée à Moscou lors d'une rotation parce que c'est Jalal était pilote. Pourquoi je mentionne cette photo de ses parents? Parce que il s'interroge encore. Il a 48 ans au début du roman. Et il s'interroge encore sur qui sont ses parents. C'est-à-dire que Jalal, son père était imam du quartier. Donc c'était Jalal vivait à la cité Malki à Alger. Son père était imam et sa mère était archéologue. Mais elle était aussi marxiste convaincue. Alors quand on voit ça, on se dit une marxiste avec un religieux, il y a quelque chose qui ne colle pas en fait.
Mais vous gardez le suspense, c'est-à-dire ouais. Au début vous ne dites rien. C'est-à-dire pour le lecteur, c'est incroyable, c'est quoi ce couple?
Et alors justement, vous dites...
C'est quoi ce couple?
Exactement, mais c'est quoi ce couple? Et ben cette question-là, Jalal se l'est posée quasiment toute sa vie. Et parce que lui-même n'avait pas de réponse à cette question-là. Et bon, son périple va l'aider à comprendre un peu tout ça, mais il a grandi avec ça. Il vient en plus d'un environnement familial très très silencieux, Et jusqu'à l'âge de 20 ans, il savait pas comment mettre des mots sur ces questions. Et c'est le moment où ses parents sont décédés. Donc il se dit, voilà, donc il a cette grande interrogation, qui sont mes parents, puis du coup, qui suis-je aussi? Ces gens un peu étranges, un peu, et même dans la description de la photo, à un moment donné, il parle d'allure de carnavalier, tellement leur accoutrement ne colle pas. Il y a ses parents qui sont en photo à côté du Maqam Shahid. Et son père est en Gandoura, en Chachia, et sa mère, elle est en espèce de robe longue rouge qui flotte un peu, et ça colle pas du tout. On dirait que, enfin, vraiment, ils vont à un carnaval, parce que c'est pas ça. Et il a grandi avec ça toute sa vie. Et c'est là où le roman commence.
Il a grandi avec des questionnements.
Absolument.
Et toute sa vie
a été
fait de non-dits. Un questionnement éternel.
Donc, qui sont ces gens, en fait, qu'il a eu très peu d'interactions, ou en tout cas de ses souvenirs, et qui sont.
Son père parlait peu.
Très peu.
Et sa mère était occupée avec l'archéologie.
Ouais. Et puis elle parlait pas plus que ça non plus. Il y avait beaucoup de livres à la maison. D'un côté des livres religieux
de l'autre des livres marxistes,
archéologie, mais voilà, beaucoup de classiques marxistes en russe ou en français, et ça colle pas, quoi. Mais qui sont ces gens? Donc c'est comme ça, c'est dans cet environnement que Jalal a grandi. C'est là où commence le roman, et il se demande, voilà.
Alors il y a un choix, c'est le vôtre, hein, oui. dans cette fiction, dans votre roman, la question que éternelle que l'on peut poser, quelle est la part de la fiction, de la réalité dans cette fiction, la part de la fiction cette réalité? On va la poser comme
non,
ça.
Alors, bon, j'ai rien à voir avec le personnage. Ceci dit, il y a toujours une part de soi qu'on met. On n'est pas complètement schizo. Voilà.
Voilà. Il y a toujours une part de l'écrivain.
Bien sûr. Et donc, il y a c'est une question qui est compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'inconscients, hein, de choses qui sont inconscientes qu'on met dedans, et ça, non, je suis conscient. D'autres, beaucoup moins. Mais dans les choses communes, on va dire. Alors, parfois, il y a peut-être des opinions que je partage. Parfois, non. Mais il y a dans les choses communes, il y a l'environnement livresque, on va dire. C'est-à-dire d'avoir grandi dans un environnement avec beaucoup de livres. Et donc c'est dans un environnement dans lequel j'ai grandi. Il y a beaucoup de livres très très différents aussi. Mon père était professeur de droit. Il y avait beaucoup de livres de droit à la maison, mais pas que. Il y avait aussi beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et c'est une bibliothèque très éclectique dans laquelle j'ai grandi à Alger. Et donc et puis il y avait des livres aussi en. C'est aussi peut-être que ça m'a inconsciemment, maintenant j'y pense, en termes de langue, en fait, il y avait des livres à la maison, beaucoup de livres en arabe et beaucoup de livres en français, et tout ça se mélangeait, en fait. Et donc j'ai grandi avec des livres dans plusieurs langues. Et c'était quelque part un peu normal, mais bon, en fait, pour un étranger, ça ne plaît pas forcément. Et donc, je pense que ça peut, inconsciemment, ça m'a aussi inspiré ce mélange de à la fois de genres, de langues, et puis de manière parfois un peu désordonnée. Voilà.
Juste pour vous situer encore un peu mieux, quelle est votre formation, en fait?
J'en ai plusieurs, mais à la base, je suis ingénieur en aéronautique.
Ah, donc ça rejoint un peu.
Oui, bien sûr. Oui, il y a des choses. Oui, bien sûr. Oui, c'est la passion pour l'aviation, etc. Ça vient pas de nulle part. Et donc voilà, j'en parle aussi dans le. Il se trouve que déjà là, les pilotes.
Et cette formation a eu lieu en Angleterre.
Elle a eu lieu. C'est mon école d'ingénieur. Non, je l'ai faite en France. Ouais.
En France,
ouais.
Pas en Angleterre. Ouais. Bien. Vous brouillez les pistes.
Ouais.
Vous brouillez les pistes. Ça, c'est votre, on va dire votre atout.
Oui.
Bah, l'atout majeur.
C'est le but, hein. C'est le but. Et, ouais. Et voilà, et le but, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'envoyer le lecteur sur un chemin complètement inattendu, mais sur lequel il ne veut pas sortir.
Alors, vous semblez adorer l'intrigue policière.
Oui,
hein?
Oui.
Alors, mais vous semblez connaître un peu comment est menée l'enquête. Donc, d'emblée, c'est un peu les interrogations des voisins. Donc,
ouais.
Cette enquête qui aboutit à rien et à tout. Mais déjà... Déjà, Jalal est mal.
Ouais, ça commence pas très bien pour lui.
Pour lui.
Lui, il sait pas trop ce qu'il fait.
Il y a cet appel étrange et les yeux commencent à se tourner vers lui qui fait, ça fera de lui un des premiers.
Ouais, parce que on trouve le cadavre de ce jeune homme.
Coupable désigné.
Oui, on trouve le cadavre de ce jeune homme en bas de chez lui. Lui, à la base, il n'y a rien à voir avec ça. On l'appelle pour lui dire que, il y a peut-être un lien, donc il se demande ce qui se passe, et puis très vite il va se retrouver quasiment suspect sur cette affaire, alors qu'il n'a rien à voir avec, et tout ça va se mélanger.
Parce que quelque part il se dit quoi que.
Ouais, il y a toujours un petit doute dans la mesure
surtout
où...
Surtout quand il rend visite à son ami Brahim.
À Benisnous, ouais.
À Benisnous, ouais. Il commence à avoir des doutes.
À comprendre un petit peu, ouais. À comprendre un petit peu que, il y a peut-être un lien. Alors lui, il n'a rien fait et tout, mais sur ce jeune homme, qui était à la cité Malki et qui voulait lui parler. Alors qu'il ne connaît pas.
Brahim lui apprend que ce jeune homme était, donc, le fils de Brahim.
Ouais, son fils biologique, ouais.
Biologique. Donc, c'est un fils qu'il a eu avec une Ukrainienne quand il faisait ses études, lui aussi, de pilote de l'air
en Union soviétique, ouais.
Ouais, ouais. Union soviétique.
Oui.
Et lui, il se rappelle aussi qu'il a épousé, donc, une soviétique, une ukrainienne.
Jalal, lui, il a épousé une, bien plus tard, hein, une russe, mais avec qui il a divorcé juste avant le début du roman, en fait.
Du roman, ouais. Donc avec deux enfants, je crois.
Avec deux enfants, ouais. Enfin, c'est elle qui a divorcé.
Bien.
Ouais.
Ouais, ben, ouais. Tout ça, donc c'est déjà la première...
Ouais, et tout ça, ce télescope...
Premier recoupement.
Voilà.
Hein, l'histoire s'imbrique, voilà, les petites histoires s'imbriquent,
ouais.
L'un dans l'autre, et ça commence à l'intriguer sérieusement. Donc, ce fils de son ami Brahim, que faisait-il dans son quartier?
Oui, et puis vous savez, il y a ce doute horrible où on se dit, et s'il y avait vraiment un lien, et si j'ai un lien avec cette histoire de meurtre, et c'est difficile de s'enlever de la tête, on vous met ça dans la tête, et il y a des, et surtout que la probabilité elle est non nulle, hein, elle existe, et vous dites, mais attendez, mais s'il avait raison, si j'ai vraiment un lien, si ce gamin voulait vraiment me voir, mais alors que je ne le connais pas, et il s'est fait tuer juste avant, mais, et si tout ça c'était vrai, et ça colle, mince, pourquoi? Comment?
Où est le lien?
Où est le lien? J'ai a priori, j'ai rien à voir là-dedans, mais peut-être que oui. Et donc, voilà, ça peut rendre fou, hein, ça. Ouais.
Ça rend fou, d'autant que Brahim lui confie une mission incroyable. Il dit, tu es le mieux placé, tu es mon ami, tu as vécu, tu connais l'Angleterre, tu connais l'Union soviétique, il n'y a que toi qui peux raccompagner le corps.
Ouais, alors il y a d'autres raisons qui l'avancent, hein, mais en gros, pour faire court, il lui demande de rapatrier le corps en Ukraine, parce que le jeune homme qui s'est fait assassiner est ukrainien, et d'aller voir la mère de ce garçon pour en savoir un peu plus que ce que ne veut pas faire au début. Jalal, mais à partir du moment où il accepte de le faire, parce qu'il a toujours ce doute, c'est là où en fait l'aventure commence. Il se retrouve dans un endroit un peu perdu en Ukraine, en plein hiver, et puis c'est là où en fait l'aventure de laquelle il ne peut plus s'échapper en fait. Il n'y a plus rien de peut l'arrêter, plus rien ne peut arrêter ce qui se passe.
Avant d'arriver à cette étape du livre, j'ai trouvé un passage où vous dites lui-même se dit, hein, j'étais né d'un mystère.
Absolument.
Il est né d'un mystère. Alors, on va essayer d'expliquer aux éditeurs le pourquoi. Père imam, d'une langue dont toute sa famille, le grand-père était imam, le père, etc. Mère, archéologue marxiste, avouez que c'est un peu commun, pour ne pas dire vraiment inédit.
C'est peu commun, sauf que, vous savez, après avoir fini l'écriture du livre, j'en parlais à quelqu'un qui m'a dit que dans les années 70, je crois, il y avait un imam qui était assez connu et dont la femme était violoniste en fait et donc du coup et qui était pas marxiste mais pas loin et donc du coup je me dis tiens bah voilà
c'est
oui c'est vrai je l'ai pas fait exprès mais ouais
la preuve sa maman aime la musique universelle musique classique
et sa mère est une grande fan de musique classique. Alors là pour le coup je peux vous dire la part de ma vie personnelle là-dedans c'est que j'ai grandi aussi un peu avec pas mal avec la musique classique à Alger dans les années 80. Ouais, ça c'est. Et ma mère m'emmenait très souvent au TNA voir les vous savez, il y avait des troupes de passage.
Et on avait à l'époque. Russe, hein.
Ouais. Alors moi je détestais ça étant petit. Hein. C'était la corvée pour moi. Mais après j'ai appris à apprécier. Mais je pense que l'inspiration m'est venue de là.
Et donc après il y a cet incident de la perte des parents dans un accident.
Oui, donc il a perdu. Jalal a perdu.
Mais il n'avait aucun doute.
Ouais, ses parents sont morts dans un accident de voiture en 88, alors qu'il n'avait que 20 ans. Et là, tout s'écroule, hein, forcément pour lui. Il perd ses deux parents d'un coup. Mais pour lui, voilà, rien n'est. Tout ça n'est. Enfin, ça fait partie de la vie. Et puis là, il essaie d'avancer, de se reconstruire, malgré toutes les questions qu'il a en suspens. Ouais.
Parce qu'il donne des indices, mais au départ, on fait pas attention. Il dit, par exemple, il y a des grands cambriolages bizarres dans le quartier, donc la maison parentale a été cambriolée, Mais bon. Alors, ça l'intrigue, mais pas plus.
Que, hein, pas que, parce que ça l'intrigue pas plus que ça, parce que son c'est appartement ça. À la Cité Malky a été cambriolé, mais il y a eu une vague de cambriolage dans la Cité Malky.
Dans tout le quartier.
Et donc, et son appartement.
Il est loin de douter que ça.
N'a pas été épargné, ouais, ouais.
Donc, vous semez comme ça des petits indices.
Ouais.
Hein? Des petits indices pour tenir votre lecteur en haleine.
Mais sinon, tout est lié, en fait, hein. Tout,
heureusement.
Ouais, tout est lié.
Quand on lit votre roman jusqu'au bout, effectivement, tout est lié et tout s'imbrique bien. C'est pour ça votre force, la force de narrative, et votre sens de la narration, c'est ce qui est magnifique. Il y a des moments où le lecteur se pose des questions, on dit mais où est-ce qu'il veut nous mener?
Ouais.
Mais on revient toujours, tout s'imbrique. Les petites histoires se rejoignent, c'est comme un peu les affluves d'un cours.
Ouais. Mais en fait, c'est ça qui moi me fascine, c'est que la grande histoire, elle est faite de plein de petites histoires d'affluents qui la constituent. Et cette aventure de Jalal, ce qui s'est passé avant, tout ça, ça fait partie d'une des petites histoires qui constitue la grande, en fait. Et c'est ça qui est tout s'imbrique. Dans la vraie vie, tout s'imbrique. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, en fait. Cette grande histoire, elle est faite de beaucoup d'histoires humaines qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et ça, pour moi, c'est passionnant.
C'est passionnant et comme l'est votre livre. Alors, décès des parents, la famille éclate, c'est la sœur qui part au Canada. Comme par hasard ouais, aussi.
Il avait une sœur qui part au...
Lui, il ouais. part en Angleterre et sa sœur au Canada.
Enfin, il l'envoie au Canada parce qu'il ne pouvait pas s'en occuper. Elle avait 16 ans à l'époque chez de la famille là-bas. Et puis,
vous dites qu'il l'envoie au Canada, c'est pas ce qu'on apprend après.
Ouais, après, on apprend autre chose. Mais
on apprend autre chose, ouais. On laisse le suspense coller. Et elle part au Canada finir sa scolarité.
Ouais, ouais.
Bien, mes chers amis auditeurs, on prête votre mission donc hebdomadaire conçue et animée par Abdelkrim Tazaout, réalisée par le grand, le vieux routier Kamel Oularbi. Et nous sommes toujours avec Au-dessus d'Alger, seulement les étoiles de Adib Benazi, un roman que je vous conseille vivement de découvrir parce qu'il nous fait revivre l'histoire de l'Algérie, celle d'Alger. Mec des révolutions, celle d'Alger magique, celle aussi de la cité Malky, un quartier ouais. un peu spécial quand même.
Ou spécial, je sais. Enfin,
si, quand même. Par rapport à ce qu'on lit dans votre livre, c'est un quartier, on va dire huppé.
Huppé, je dirais pas huppé parce que en fait, ce qui m'intéressait dans la cité Malky, c'est qu'elle est assez ancienne et je voulais un endroit qui existait déjà dans les années 60-70 du fait de l'âge de mon personnage. Et puis bon, c'est aussi un endroit que je connais, hein, forcément. Donc voilà, c'est venu un peu comme ça. Mais juste sur la partie, quand vous dites aussi, sur la partie mec des révolutionnaires, et pour faire un lien aussi un peu avec le prologue, en fait, ce qui m'intéressait quand j'ai commencé à écrire le livre, ce qui m'a inspiré, c'est le... Pour moi, il y avait un parallèle entre l'Algérie des années 60-70, un peu mec des révolutionnaires, et l'Algérie de la fin du 18e siècle. Vous savez, dans ces deux époques-là, on était, dans une certaine manière, non alignés. Années 60-70, on était par partie des blocs, et au 18e siècle, un peu pareil dans la mesure où il y avait les grandes puissances de l'époque qui étaient la France et la Grande-Bretagne et
absolument,
on était non alignés, hein. On jouait un peu l'arbitre des fois sur tout ce qui concernait le commerce en Méditerranée, donc il y avait une position un peu similaire à celle des années 60-70 où on était entre l'Union soviétique, même si on était plus proche des soviétiques, mais quand même on était non alignés et il y a ce parallèle qui je trouvais très intéressant.
Alors d'un point de vue aussi fictionnel, tout converge à ce que Jalal apprenne le russe.
Oui, alors il a une relation un peu particulière avec cette langue. Il sait pas vraiment pourquoi au début. Enfin, il pense savoir pourquoi, mais il le sait pas. C'est que Jalal est contraint. Alors il est contraint d'apprendre le russe par rapport à sa femme. Et donc il rencontre sa femme lors d'une rotation à
Moscou. C'est la raison.
Ouais, elle parle pas très bien l'anglais. Et donc pour communiquer avec elle, il apprend le russe de manière effrénée. En à peine un an, il est capable de lire des classiques de la littérature russe. Il parle parfaitement, etc. Donc il travaille comme un fou là-dessus. Et il pense à ce moment-là, que c'est par amour pour sa femme qu'il est poussé par ce... il a une énergie folle à apprendre le russe. Sauf que c'est pas complètement vrai. C'est vrai qu'il est amoureux de sa femme et que ça le pousse à apprendre le russe, mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a d'autres raisons qui sont inconscientes qu'il apprendra bien plus tard, que je vais pas dévoiler, mais qui sont très importantes également.
Alors, j'ai bien aimé ce que dit son professeur de russe par rapport aux langues,
oui,
de manière générale.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré, et ce n'est pas faux. Je lis, nos sessions sont désormais terminées, mais il faut que tu comprennes, en parlant à Jalal, une chose importante. La langue russe on peut dire pour n'importe quelle langue, ouais, arabe ou française, ou... et comme une maîtresse capricieuse, prends toujours soin d'elle, sinon elle te quittera sans état d'âme et tu devras travailler dur pour qu'elle daigne te considérer de nouveau. N'oublie jamais ça.
Ouais.
C'est pour que on n'a jamais donné un tel conseil pour préserver une langue.
Oui, alors il y a aussi plusieurs choses aussi, parce que ici, comme sur la langue russe en particulier, parce que les Russes, ils ont un rapport avec leur langue, il y a aussi un peu de fierté dans la mesure où c'est une langue compliquée. Donc il y a un peu d'ego là-dedans.
Donné,
et qui a,
grand,
voilà,
de
grands auteurs, de littérature mondiale. Donc du coup, il y a un peu cette fierté que c'est une langue difficile et tout, et que forcément, si on la pratique pas, comme toute langue en fait, hein, comme vous l'avez très bien dit, ben ça se perd. Mais pour eux, plus pour le russe, voilà. Pour eux, le russe, c'est une langue qui se mérite. C'est la langue de grands auteurs, et donc elle se mérite. Donc il faut vraiment travailler dur, et ils sont sans pitié là-dessus. Donc il y a ce lien un peu. Enfin, il y a une certaine fierté par rapport à cette langue, et donc c'est pour ça que j'ai dit ça ici après ce personnage.
Alors ouais. Il y a aussi ces moments d'un peu de respiration, ces moments un peu de pause dans votre intrigue.
Ah, il en faut, ouais. Il en faut.
Il en faut. Et bon, on a commencé par la langue.
Ouais.
L'amour d'une langue,
oui,
comme une maîtresse. Et là, on parle d'amour aussi, de contrarié, d'une idylle contrariée, d'amour d'une... Et là, vous en parlez aussi d'une façon magnifique. « Puissant que je puisse le comprendre ou le contrôler, un sentiment de colère m'envahit. Je jalousais cette passion renouvelée qu'elle exhibait chaque jour un peu plus. Elle ne me regardait plus, elle n'avait Dieu que pour... Cette ligne d'arrivée intégrait une troupe de danse classique, sa vie, se composait de tâches quotidiennes accomplies, mécaniquement suivies d'interminables heures d'entraînement. Je me sentais complètement délaissé.
Oui. Alors là, en fait, oui, Jalel explique un peu les raisons de son divorce.
De son divorce.
Parce qu'après avoir eu deux enfants, sa femme veut se remettre à danser. C'était une danseuse étoile et elle s'entraîne dur. C'est un sport de haut niveau, en fait, hein, pour intégrer une troupe de ballet.
Bolshoï.
Ouais, elle a été au Bolshoï. Là, après, elle vivait avec lui à Londres et elle travaille
très
dur.
Et lui, une ballerine du Bolshoï trouvera toujours,
oui,
une place.
Sûr, oui. Et puis lui, jalouse en fait cette passion. Et comme il ne sait pas communiquer, il a du mal à communiquer.
C'est un problème de langue.
Non, c'est un problème qu'il y a à son enfance. Hein. Il ne sait pas. Il a beaucoup de mal à mettre des mots sur les choses. Et donc, au lieu de communiquer avec elle, dire que
ça, c'est à cause des parents.
Ouais. De ça vraiment silencieux, il a pas appris en fait. Et puis donc au lieu de communiquer avec elle sa frustration, eh ben il la communique physiquement, c'est-à-dire qu'il finit par la tromper en fait. Mais dans un élan un peu stupide, hein, mais il la trompe quand même lors d'une rotation à Hong Kong d'un soir. Bon, bien sûr qu'il le regrette tout de suite, et il lui avoue et puis voilà, le divorce suit, hein, forcément. Parce qu'il n'arrive pas à expliquer pourquoi il a fait ça. Elle veut comprendre, mais il n'arrive pas à l'expliquer. Il est complètement, il est terré dans une espèce de mutisme. Et c'est terrible, il en souffre, hein, mais les mots ne sortent pas. Il n'y arrive pas. Et en fait, ce mutisme, ses parents, et puis il a une certaine aptitude à voir le monde en musique, mais je pense qu'on va en parler dans une minute. Le crime de ce jeune homme à la cité Malki, tout ça est lié. Et tout ça, lié à ce qui s'est passé en 1785 à Alger.
Est-ce que justement c'est pour couper court avec cette passivité qui se met dans l'action?
Oui, parce qu'il faut qu'il s'exprime. Il a ce besoin de s'exprimer.
Mais comme il accepte cette mission impossible, quoi.
Ah bah oui. Là, de toute façon, il est au pied du mur au début du roman. Et puis il est pris dans cet engrenage-là. Et inconsciemment, il y a cette envie de comprendre, en fait, qui il est. Puis aussi qui il est, pourquoi il a dit vraiment ce qui s'est passé pour son divorce. Enfin, tout ça se mélange en fait dans sa tête, mais tout ça est inconscient. Mais il a ce profond désir, bah, en fait, de mettre des mots sur les choses, ce qu'il n'y arrive pas.
Ça, c'est une question qui se pose, mais dans le récit que vous faites dans le livre, il est dans l'accomplissement de cette mission que lui a confié Brahim.
Ouais.
Il est à la recherche donc du passé du fils de Brahim qui a été sauvagement assassiné. Et il commence donc à reconstituer un puzzle.
Ouais.
On est face à un puzzle incroyable. C'est inimaginable. C'est-à-dire, on a beau essayer d'être dans l'intrigue, on rentre dans l'intrigue, mais ce qui va se passer après, difficile de l'imaginer.
Ouais.
C'est uniquement dans votre tête d'écrivain que ça fonctionne bien. Vous avez travaillé comment ça? C'est, vous notez tout dans les des petits.
Alors non, j'ai un plan. Hein. J'ai un plan. Je sais où je vais. Après, le plan, il est plus ou moins détaillé. Mais après, on se surprend toujours quand on écrit. En tout cas, moi, je me surprends toujours quand j'écris parce que j'ai un plan en tête. Enfin, il est écrit même. Et puis, j'ai voilà tel chapitre, il faut que je fasse ça, ça et ça. Et puis très souvent je change en fait et d'autres idées me viennent et j'adapte donc mais la trame reste en fait, j'ai toujours un plan établi. Dans ce genre littéraire c'est difficile d'improviser sans perdre le lecteur en fait.
C'est vrai.
Donc il faut une construction sinon ça ne marche pas.
Bien, donc on est à fond dans la fiction, on se retrouve en Ukraine. Il retrouve donc la femme avec qui donc Brahim a eu un fils.
Ouais.
Tu l'as décrit d'une façon incroyable. C'est quoi? C'est un météorite. C'est une femme bizarroïde.
Ouais.
On aurait dit qu'il vient d'un autre monde. Ouais. Qui va intriguer davantage donc notre
ouais.
pauvre Jalal.
Elle s'appelle Dinara Mohamedova. Elle est tatare. Elle vit en Ukraine. Et c'est une femme très très torturée parce que elle a connu Brahim, très l'ami de Jalal, très assez jeune. Elle a eu un enfant très jeune et puis elle a dû élever cet enfant seule. Donc la Russie des années 90, donc très dur, un environnement très très compliqué. Elle laisse cet enfant seul. Elle n'a pas eu d'autre vie que ça. Donc elle a passé sa vie à essayer de se reconstruire en fait cette femme. Et donc du coup elle a toujours été passionnée d'art. Et chez elle, son appartement est plein d'œuvres d'art qu'elle a fait elle-même. Mais ces œuvres d'art, c'est quoi? Donc c'est de la peinture entre guillemets. Donc ce sont juste des toiles blanches, mais de différentes tailles. Mais il n'y a rien dessus. C'est du vide. Donc ce qui est assez angoissant. Et elle fait des sculptures aussi. Mais des sculptures aussi, qu'est-ce que c'est? Donc elle fait des sculptures d'êtres humains ou d'animaux. Bon, très bien. Mais qui sont soit amputés d'un membre, soit augmentés d'un membre. Ils ont une tête en plus, un bras en plus.
C'est ou vraiment un univers sombre.
Très sombre, hein, mais très torturé, on le voit tout de suite, hein. Parce que sa vie, ça a été ça, en fait. Ça a été un environnement très torturé. Et on tombe dans cet appartement en Ukraine, où elle a ses œuvres d'art, entre guillemets, qui sont très, très angoissantes. Entre ces toiles blanches, qui représentent rien de plus que le néant. Et ces sculptures torturées, c'est un peu, quand on voit ça, c'est un peu angoissant.
Dans la tête de l'auteur que vous êtes, c'est aussi un climat.
Absolument, ouais.
Des deux nations, hein, la Ukraine et la Russie, c'est tout ce climat, surtout cette suspicion. Tout le monde a peur du voisin,
monde...
tout le monde a peur de l'autre.
Il y a une espionnite aiguë, ouais.
la visite de Jalal intrigue et intrigante. Elle doute de lui.
Ouais.
Tu es le pire imam que j'ai jamais vu de ma vie.
Ouais.
Et ainsi de suite. Et lui, il est aussi étonné de la vie de cette femme. Il dit que, au départ, c'était son oncle, donc, l'oncle de l'ex-femme de Brahim. Donc, c'est son oncle qui a un peu l'aidé à survivre.
Ouais.
Après, c'est son fils, mais elle ne sait pas. Donc, d'où il a eu les moyens de vivre.
En fait, il arrive donc en Ukraine. Quand on voit un étranger, tout le monde est suspicieux par définition.
C'est ça.
Lui connaît cette culture-là, donc il parle le russe parfaitement. Donc c'est aussi un peu pour ça que son ami Brahim l'a envoyé. Mais il sait répondre à ça, mais il reste quand même déstabilisé par certaines des questions et de la manière dont on le voit. Ouais.
Ouais. Il a le Farid, hein, c'est le fils de Brahim.
Oui, qui s'est fait.
Il a 20 ans à cette époque.
Ouais, ouais.
Il a 20 ans à cette époque, mais déjà indépendant financièrement.
Ouais.
Indépendant, mais il est intrigant.
Oui, c'est un jeune.
On se demande comment il a cet argent, cette aisance financière.
Oui, en plus, c'est un jeune punk. Donc, il a une raie rose sur le crâne.
Alors, un punk en Union soviétique, c'est pas évident.
Oui, encore moins ici. Moi, j'en ai jamais vu à Alger. Mais en tout cas, il est venu à Alger, oui, habillé comme ça et avec cette allure. Donc, il est très atypique.
Ouais, le prétexte est fabuleux. Donc, il vient, soi-disant, il a réussi à avoir le visa parce que c'est pour donner un concert de musique. Donc, alors tout est faux.
Oui, alors ça, on apprend plus tard comment il s'est débrouillé, mais c'est quelqu'un de très, très atypique. Sa mère l'est aussi. Il a grandi dans un environnement très, très dur. C'est un garçon qui est assez intelligent. Et donc, sa description soulève plus de questions qu'autre chose. Bon, c'est aussi un peu le but. Ouais.
oui, c'est tout le long du livre.
Ouais.
On se pose des questions.
Qu'est-ce que ce jeune Ukrainien faisait à Alger en cherchant quelqu'un qu'il ne connaissait pas Donc, oui. Donc Jalal.
Et pour mettre un peu de sel, un peu de genre de crédibilité, vous citez même l'APC de Cuba, vous citez, ouais. Nous faire croire que c'est vrai.
Oui, oui, oui.
Qu'on
oui.
est dans la réalité.
Mais alors, vous faites bien de mentionner ça, parce que pour moi, vous savez, les détails sont importants. J'aime bien les détails, pas pour le fait de donner des détails, mais pour que ce soit le plus réaliste possible, en fait. Et j'adore lire des romans où des auteurs qui ont le sens du détail, surtout dans ce genre littéraire-là, qui ont le sens du détail, qui ne dit pas certaines choses et qui mentionnent des détails pour une raison précise. Et ça, j'aime beaucoup. Donc pour moi, les détails sont super importants. Enfin, les détails utiles, hein, bien évidemment. Mais et voilà. Et donc, j'aime bien être précis. Et pour que tout colle, en fait.
Ouais, mais dans ce thriller et dans son road movie, on a besoin de savoir oui. où est-ce qu'on est.
Oui,
on a besoin
sinon, d'avoir c'est les cool. petits, absolument.
On n'est pas dans les petits détails.
Absolument.
Et ce Jalil, ce personnage principal qui est parti pour donc aider son ami Brahim,
ouais.
pour savoir qui est son fils Farid, d'où ce qui vient,
ouais.
qu'est-ce qui l'a amené à Alger, et en réalité en quête de lui-même. Et donc, d'étape en étape, il progresse et il se retrouve au centre, lui-même au centre de la grande histoire,
ouais.
qui est l'histoire de ses parents.
Absolument. Et puis tout parce se mélange. Que,
tout se mélange parce qu'il y a une photo qu'il a découverte. Ah ouais,
pas trop. Mais il va faire des découvertes sur ses parents.
Oui.
Et qui
grâce
vont,
à la photo.
Ouais, mais qui vont le, si vous voulez, le, beaucoup le perturber parce que là, une photo qui remet des choses qui vont tout remettre en question. Sur ses parents, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'il est lui-même. Et là, c'est le tremblement de terre pour lui. Et il est complètement bloqué dans ses histoires. Et il peut plus s'en échapper. Et là, il va être complètement pris, happé. Et là, il y a plus, autant avant ça, cette découverte, il avait le choix, en fait, hein, de continuer ou pas à enquêter, entre guillemets. Mais là, il y a plus le choix. Il est obligé d'aller vers l'avant, sinon, enfin, il est pris dans une espèce d'engrenage dans lequel il ne pourra pas se sortir.
Bon, ça n'enlève rien au besoin qu'aura nos auditeurs de lire le livre.
Ah oui, oui.
Parce qu'il abandonne carrément Farid, le fils.
Ouais, là, tout se mélange, en fait, tout se mélange.
Mais moi, je dirais, la responsabilité, il va s'occuper de...
Oui, parce que là, il est touché personnellement. Il a un lien très fort avec l'histoire qu'il ne soupçonnait pas. Donc c'est là où tout change, ouais, absolument.
Alors tout ça est déclenché par encore une fois par la photo. Vous êtes très visuel.
Oui.
Vous mettez des images.
Ouais.
Et ça, c'est votre livre. Moi, je le vois bien en film.
Oui, mais c'est
compliqué
merci.
À faire. Ouais, mais je le vois bien en film.
J'entends souvent ça.
Parce
ouais.
que tout est visuel.
Ouais.
Il y a de l'action. Il y a du rythme. Il y a du rythme dans.
Ouais.
Il y a de l'action. Il y a des rebondissements. Beaucoup de rebondissements. Et puis cette histoire fabuleuse. Le manchot arrive et encore, hop, et ça repart
ouais.
comme en 39.
Ouais.
Et c'est reparti de plus belle. Allez, allons-y ouais. pour le manchot. Le manchot qui ne dit pas tout d'emblée, qui donne son histoire.
Qui est un personnage très énigmatique.
De façon parcellaire.
C'est un des personnages très énigmatique de l'intrigue qui, dont on découvre à la fin certaines choses, mais c'est un personnage à la fois énigmatique mais aussi très complexe.
Complexe, puissant.
Puissant. Mais aussi, je me suis inspiré de personnages réels, hein, auxquels j'ai modifié pas mal de choses, mais cette inspiration, elle vient du réel, pour le coup. On a eu des gens comme ça dans notre histoire et qui sont, ouais, pour moi, source d'inspiration, bien sûr que il y a... En fait, ils ont eu des gens qui ont des destins tellement... particulier, tellement exceptionnel, hein, et quand je dis exceptionnel, ça veut pas dire bien ou mauvais, mais exceptionnel, vraiment très différent,
j'aime bien, c'est vrai ouais. que c'est des parcours exceptionnels.
Ouais, et qui, vraiment,
c'est à l'histoire de juger qu'ils
ouais,
étaient.
Ouais, absolument. Mais c'est des sources d'inspiration incroyables. Quand on voit ça, on ne peut qu'être, enfin, une matière littéraire là-dedans qui est extraordinaire. Et des gens comme ça, après l'indépendance, il y en a eu un certain nombre, qui ont eu des vies, mais vraiment de romans hein. Et là pour le coup il y a rien à retoucher parce que c'est vraiment ce sont des romans sur pattes, donc c'est et quand on découvre leur vie on se dit waouh, ok, bon là c'est il y a vraiment beaucoup de matière et on peut prendre qu'une petite partie parce que sinon voilà ça fait trop, mais et le manchot c'est un exemple.
Il y a un choix
ça. Ouais, il y a un choix à faire.
Alors d'étape en étape tu nous ouvres un autre roman fabuleux, c'est le roman d'Alger.
Oui.
De l'Algérie de post-indépendance. Ouais. Ça, c'est fabuleux aussi. le Panaf, c'est le couronnement un peu, hein.
Ouais.
Mais c'est une période magnifique, nous, qui est vécue par les Algériens, par les Algérois de cette époque.
Alors, je l'ai pas connu, hein, j'étais pas né, mais je n'ai pu que me documenter sur le sujet, interviewer des gens. Mais c'est une époque, et le Panaf, dans mon livre, a un rôle particulier aussi, parce que il y a un lien avec le personnage, de Jalal.
Tout a un lien avec
tout
le personnage.
Tout est lié. En fait, les personnages sont liés.
C'est pour ça que c'est bien imbriqué, c'est bien.
Et imbriqué dans l'histoire.
C'est bien amené,
voilà.
Oui.
Tout est connecté. Et donc, il a ce, et donc ce Panaf a un lien particulier avec le personnage de Jalal. Et qui a un lien avec l'intrigue. C'est difficile d'en parler sans trop spoiler.
Alors, ce qui est intéressant, amis auditeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne des noms de tous ceux qui étaient là. Barry White,
ouais.
Nina Simone, Myriam Makeba.
Ouais.
Donc, il nous parle que des chanteurs parce qu'il adore la musique. Ça, hein, la maman de Jalal adore la musique.
Ouais.
Donc, c'est tout cet univers musical. Mais il y avait des grands noms de politiques, de danseurs, ouais, de cinéastes, etc. C'était la belle époque et tu as tenu à nous la faire revivre.
Oui, et puis, alors, moi qui n'ai pas connu cette époque, là, moi ce que je trouvais fascinant là-dedans, ce qui émergeait pour moi, ce qui ressortait beaucoup, c'est le mot espoir. C'est-à-dire que j'avais l'impression de voir une époque où, quelque part, tout le monde croyait à un monde meilleur, que tout était possible, et que tout était à portée de canon, entre guillemets, parce que beaucoup étaient des révolutionnaires et tout, donc, et tout le monde y croyait fermement, et il y avait cet espoir un peu fou qui guidait ces gens-là, et je trouvais ça assez, vraiment fascinant. Mais il y avait une verve, une passion, et tout ça c'était porté par un espoir assez vraiment incroyable.
Le monde était pour l'espoir.
Ouais, non, mais tout était à portée, en fait, les gens avaient, vous savez, c'était l'époque de la décolonisation dans le monde, il y avait la guerre du Vietnam aussi à l'époque.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le monde n'est plus à l'espoir.
Je pense qu'il y en a moins. Bizarrement.
Moins d'espoir.
Ouais. Oui. C'est une impression, hein, c'est très subjectif, ce que je dis. Hein. Mais là, en fait, il y avait ces gens qui venaient du monde entier et qui avaient ce même idéal, en fait, de décolonisation, d'un monde meilleur,
de paix, de progrès,
d'équité, l'éducation pour tous, la santé pour tous, enfin des choses belles, hein,
de belles choses,
de belles choses très très nobles. Et tout le monde y croyait fermement, était prêt à lutter, à mourir pour ça, et se regrouper au même endroit, donc en l'occurrence à Alger, et rêvait de tout ça ensemble. Et je trouvais ça, enfin, dans leurs écrits et tout, je trouvais ça assez beau. En tout cas, moi, ça m'a fait rêver quand j'ai lu ça. J'ai dit, tiens, c'est assez incroyable.
En rêve,
il y a ce Panaf qui couronne tout ça.
Voilà. Oui, en lisant votre livre, n'importe quel lecteur dira, oh, j'aurais aimé vivre aussi cette époque d'Alger. Heureusement que nous avons des films qui nous font revivre
ouais.
cette époque, des films sur le Panaf. Alors, vous m'avez dit, on a parlé avant de rentrer dans le studio, que vous avez reçu une lettre d'une Américaine.
Oui, alors en fait, j'ai un personnage dont je me suis fortement inspiré dans le roman, qui était à cette époque-là à Alger, qui a écrit d'ailleurs sur cette époque-là. Donc son livre a fait partie de mes recherches. Et elle, la particularité, c'est que j'ai quasiment rien changé de sa vie. J'ai changé bien sûr le nom et puis certaines choses, mais la 80%, j'ai rien changé volontairement. Parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose à changer. Je ne l'ai pas consulté avant de la publication. Je ne la connaissais pas. Alors j'aurais pu, hein, via mon éditeur, être en contact avec elle, mais j'ai pas souhaité. Et puis elle a lu le roman.
Ah, magnifique.
Elle s'y est non seulement complètement retrouvée. Donc par exemple, c'est mission accomplie. Elle m'a dit que sur la description de l'époque, apparemment, c'était ça. Donc très bien, parce que moi je l'ai pas vécu, donc je pouvais pas. Et puis surtout, elle m'a dit pas mal de belles choses. Elle était très très secouée à part la lecture de ce roman. Et puis elle a conclu son message. Ça m'a donné la chair de poule parce que donc son mari est décédé. Son mari qui était algérien, elle était américaine. Son mari était algérien. Et elle a conclu son message pour mon mari, pour moi, pour l'Algérie. Merci. Et ça m'a beaucoup. On reçoit ça d'un de ces personnages, un message. Alors c'est pas tous les jours qu'on reçoit un message d'un de ces personnages. Hein. Et là, moi, ça m'a beaucoup ému. Ouais.
Moi qui ai lu votre livre, je vous dis merci et bravo. À mes auditeurs, allez-y l'acheter, allez-y en librairie, achetez ce livre d'Adi Benazi, Au-dessus d'Alger, seulement les étoiles, On termine avec notre questionnaire.
Juste, pardon, oui. Une dernière chose, on parlait d'espoir. On dit,
c'est aux éditions, on l'a oublié, Barzac.
Barzac. Un peu, quand on parlait d'espoir, donc le mot-clé, c'était aussi l'espoir. Donc, ouais.
Bien, alors, saison préférée.
Ma saison préférée, le printemps.
Le printemps, pas le renouveau, original, mais l'espoir.
Bon, oui, voilà, vous voyez.
Le plat, exprès.
Exactement.
Le plat.
Exactement.
Le plat russe.
Non. Non, c'est la rajta pour moi.
La resta.
Ouais.
Bien, le
ouais.
Fruit.
Le fruit, pas très original, mais l'orange.
Ouais. L'orange. Ouais. L'auteur algérien.
Keteb Yassine. Maud Feraoun, je vous en parlais tout à l'heure aussi, j'aime bien. Ouais.
Bien, le livre que vous lisez souvent, votre livre de chevet, on va dire.
J'en ai trois.
Mais
dans des catégories différentes. Je donne souvent parce qu'ils sont très différents, mais les trois, j'adore. Le premier, en fait, qui me quitte pas depuis l'adolescence, donc c'est Vol de nuit de Saint-Exupéry, oui. Que je trouve magnifique et qui fait rêver absolument et qui m'a pas quitté depuis l'adolescence, que je relis peut-être une fois tous les deux ans, on va dire. Le deuxième, pour le coup, qui est dans la poésie, donc ce sont les quatrains de Omar Khayyam.
Oui.
Pareil, que j'ai découvert quand j'étais adolescent et qui m'ont pas quitté depuis.
Et qu'on croit lire durant l'adolescence, c'est important, ça
absolument.
Marque la vie.
Absolument, et le troisième, pour le coup, que je mettrais dans une catégorie que j'appellerais inclassable, hein, parce que je ne saurais pas où le mettre, et pour le coup que j'ai découvert beaucoup plus récemment, et heureusement, sinon j'aurais rien compris. Donc c'est le Traité de l'Unité de Ibn Arabi, qui a un écrit, c'est un texte assez court, hein, mais qui m'a beaucoup secoué, et qui est d'une profondeur immense.
Voilà. Très bien, très bien. Bien, alors la chanson que vous pouvez écouter en boucle.
All Right de Jamiroquai.
Ouais, très bien. Le chanteur préféré.
Bah pour le coup, c'est le groupe Jamiroquai. Ouais.
Très bien.
Ouais.
Alors, l'expression dicton que vous n'aimez pas.
D'ailleurs, un dicton russe que je cite dans mon livre. Personne ne mérite de mourir sans savoir pourquoi.
Très bien.
C'est très russe, hein. Mais c'est très fataliste.
C'est universel.
C'est universel, hein.
C'est universel.
Mais ils sont assez fatalistes, mais bon, ouais.
Le mot que vous aimez.
On en parlait tout à l'heure, hein, espoir.
Espoir, celui que vous détestez.
J'en ai pas.
Ah.
Mais tous les mots sont intéressants et tous les mots sont. Je pourrais pas dire. Il y a peut-être des mots que j'aime pas, mais détester, non. En fait, je crois que je déteste rien. Mais ouais.
Très bien. Vos trois passions.
Mes trois passions. Alors, j'adore la photographie, l'aviation.
Ça se voit.
Ouais.
Il y en a au moins trois dans votre livre.
Ouais, au moins. L'aviation, c'est une passion depuis que je suis petit. Bien sûr, l'écriture.
Une écriture.
Ouais.
Merci beaucoup, Adib.
Merci à vous.
Pour votre livre. Amis auditeurs, je vous dis au revoir, bon week-end, et je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir, merci et bon week-end. We'll be right back.
Spell on me, baby. Yes, you've got your spell on me.